LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Le jour où c'est arrivé, j'avais 11 ans, j'étais au CM2. J'étais à la maison. Je me suis levée comme tous les jours pour aller à l'école et je me suis aperçue que mes parents n'étaient pas dans la maison. Comme on habitait à côté de mes oncles, je suis allée chez eux et là j'ai vu toute la famille, tous les adultes réunis autour de la radio. Ma mère m'a dit « Tu n'as pas école aujourd'hui ». J'ai demandé pourquoi et elle a dit « Parce que c'est la dictature ». J'ai demandé à ma mère « Qu'est-ce que c'est la dictature ?» Et ma mère a répondu « À partir de maintenant, ils vont attraper les gens, on va les mettre en prison, les envoyer en exil, on va les torturer et on va les tuer. » Et moi, j'ai compris que c'était comme la guerre. J'ai commencé à pleurer et je ne pouvais plus m'arrêter.
Quand vient le fascisme en Europe ? Aujourd'hui, le coup d'État.
Pierre Lantenac, vous avez lu les dernières dépêches. Que sait-on exactement ?
En fait, on ne sait pas très bien ce qui se passe à Athènes ce matin. Depuis le début de la nuit, les relations télégraphiques et téléphoniques avec la Grèce sont rompues. Il faut dire que les employés des postes et télécommunications grecs sont de plus en grève depuis 24 heures. Les seules informations qui nous parviennent sont des rapports d'écoute de Radio Athènes. Radio Athènes annonce que l'armée a pris le pouvoir en Grèce depuis minuit. On attend une déclaration du chef d'état-major général. Nous venons d'apprendre que l'armée était intervenue en vertu d'une proclamation royale signée par le roi Constantin, par le premier ministre et par le cabinet. L'armée donc suit sa tradition et va tenter de conforter la position du roi. Il est possible que l'on apprenne la dissolution autoritaire des partis politiques de l'opposition.
Dimitris Christoulakis, est-ce que vous vous souveniez de ce 21 avril
1967 ?
Le 21 avril 1967, j'avais 19 ans. J'étais étudiant à l'université du Pirée. Et ce jour-là, en Grèce, il y a eu un coup d'État. Et l'armée a pris le pouvoir dans le pays. Personne ne s'y attendait. On savait que la situation politique était instable. Mais personne n'aurait imaginé que l'armée puisse faire un coup d'État.
Όλοι περιμέναμε σαν λαός ότι κάτι θα μπορούσε να γίνει. Αλλά κανείς δεν πίστευε ότι θα γινόταν αυτό.
Alors que l'on assiste à un renouveau des mouvements fascistes un peu partout en Europe, la question est toujours d'actualité. Comment un pays bascule-t-il dans la dictature ? Y a-t-il un moment précis où tout se joue ? Crise économique, politique, faiblesse de la démocratie, complicité des élites, ingérence de forces étrangères, émergence d'un leader charismatique appuyé par un parti fort. Il suffit parfois d'un coup d'État réussi, parmi tant d'autres tentatives vouées à l'échec, pour soudainement, par un concours de circonstances favorables, permettre au fascisme de s'installer durablement au pouvoir. C'est sur ce moment précis de la prise de pouvoir que nous reviendrons, en Italie, en Espagne et au Portugal. Mais pour commencer, allons tout d'abord à Athènes, où vivent encore aujourd'hui de très nombreux témoins du coup d'État des colonels le 21 avril 1967. Stravoula Christoulakis.
Après quelques temps, mes oncles ont commencé à rassembler des articles de journaux qu'ils avaient gardés à la maison, comme des archives. Et ils ont creusé une grande fosse dans le jardin et ils ont commencé à brûler tous les articles, les papiers et même les livres compromettants. Parce que mon oncle avait fait partie de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale et il savait que c'était dangereux si on trouvait ça chez lui.
Vous, par votre famille, vous avez tout de suite compris la gravité de la situation.
Oui. Et pour moi, c'était la guerre. J'avais beaucoup entendu parler de la guerre par ma famille, et pour moi, la dictature, c'était comme la guerre. J'ai vu mon oncle aller brûler ses papiers, et ils m'ont dit que c'était interdit de sortir. Que tous ceux qui sortaient dans la rue risquaient de se faire tirer dessus. C'était le couvre-feu. À cette époque, le reste de ma famille était à Athènes. Ma cousine était à l'université de philosophie à Athènes. Elle était membre d'une association qui était dans le collimateur de la junte et elle était recherchée par la police. Alors ils ont essayé de quitter la ville en voiture, mais ils ont été arrêtés. Ils ont fait comme s'ils ne savaient pas ce qui se passait, en disant qu'ils venaient d'un petit village. La police leur a dit « Rentrez chez vous tout de suite et ne sortez pas, sinon vous êtes morts ». Ils ont réussi à venir chez nous, mais notre cousine était en danger, donc on a cherché un moyen de la cacher. Nous connaissions quelqu'un qui avait une clinique psychiatrique pas très loin de la maison. Et on a réussi à la mettre à l'abri là-bas pendant un mois pour être sûr qu'elle ne soit pas arrêtée.
À
cette époque, mon frère avait 14 ans. Il allait à la clinique en vélo pour déposer de la nourriture à ma cousine. Moi, je ne savais pas tout ça, je l'ai appris plus tard. Tout ce que je savais, c'est qu'il ne fallait pas parler. J'ai même aidé ma tante à détruire des documents de l'université parce qu'ils étaient compromettants. C'était des tracts pour des réunions politiques, des choses comme ça. Les papiers, on les mettait dans le lavabo, on les mouillait pour faire disparaître l'encre, et ensuite, on les mettait dans des sacs de sucre avant de les jeter à la poubelle.
Joël Dallègre, vous êtes historienne spécialiste de la Grèce. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce 21 avril 1967 ?
Un petit groupe de colonels de milieu social assez moyen a pris par surprise, en fait, le pouvoir dans la nuit. Ils étaient suffisamment bien organisés pour avoir compris qu'il fallait prendre juste quelques points clés, s'emparer d'un certain nombre de gens qui étaient listés depuis longtemps, donc qui étaient bien connus, donc on les arrêtait tous pendant la nuit. Et après ça, et ben, le matin, on avait pris en particulier possession des moyens de communication orale, donc en fait de la radio. Donc le matin, on annonce à la radio que voilà, quelque chose a eu lieu et... un nouveau gouvernement est formé qui va sauver la nation de la catastrophe dans laquelle elle allait autrement. Et le roi, pris de surprise, après avoir vaguement hésité quelques heures, a accepté.
Quand vous dites, Joël Dallègre, qu'ils prennent quelques points stratégiques, c'est lesquels exactement ?
Ben, en fait, les conjurés étaient eux-mêmes déjà placés dans des endroits qui étaient représentaient. Je veux dire, l'un dirige les blindés, un autre dirige finalement les services de renseignement. Ils sont dans des postes qui sont autour d'Athènes. Donc, en fait, à partir du moment où eux obtiennent l'obéissance de ceux qui sont sous leur commandement, il n'y a plus de problème.
Donc, c'est principalement à Athènes et autour d'Athènes.
Oui. Eh ben, les gens qui sont arrêtés sont ceux qui sont déjà listés par la police depuis 50 ans comme étant soit des communistes, soit des supposés suppôts du communisme, des socialistes, des artistes supposés malpensants. Des gens comme Theodorakis, depuis déjà plusieurs semaines, ne dormaient jamais deux nuits de suite au même endroit. Donc...
Laocrasia Laka, vous êtes chercheuse en biologie moléculaire. Vous étiez où en 1967, au moment où les colonels ont pris le pouvoir?
À Athènes. Je venais de prendre mon diplôme de la faculté des sciences à Athènes et j'appartenais à la jeunesse Labrakis. Alors je travaillais beaucoup politiquement. À l'époque, il y avait beaucoup de manifestations et on préparait à cette époque-là la marche de la paix vers Marathon. Ma mère, qui avait beaucoup des idées bizarres, elle nous disait, voilà, la dictature vient. Mais moi, je ne croyais pas à ça. Et le soir que la dictature a dû commencer, moi, apprenais la langue russe dans l'Union soviétique grecque. Et là, c'était avant les Pâques grecques, on faisait une fête pour dire au revoir pour Pâques et je marchais avec d'autres amis après la fête pour venir à la maison et j'ai entendu de très loin un bruit, le bruit des chars qui venaient. Mais on ne pouvait pas l'imaginer. Ma mère, elle était très inquiète, elle m'a dit « il paraît qu'il aura un coup d'état ». Et 6 heures le matin, on entendit le réveillon.
Athènes donc paraît tout à fait normal à première vue. Tout à fait normal à un détail près cependant. C'est la présence de ces chars, de ces automitrailleuses, de ces mitrailleuses en batterie. On est obligé de filmer un peu en cachette car en principe, toute prise de vue est interdite en ce moment à Athènes. Ces chars qui sont situés au point stratégique de la ville, devant le Parlement par exemple, au Pirée, devant le stade olympique, face à l'Acropole et aussi dans quelques terrains vagues tout autour de la ville. 150 chars ont pris Athènes. 150 chars, maintenant il n'en reste plus guère qu'une poignée. Une poignée qui sont là comme une sorte de symbole pour rappeler aux opposants éventuels qu'ils n'ont plus pour le moment qu'à se taire et à incliner la tête.
Dans cet immeuble, il avait beaucoup d'appartements. Ils étaient tous des amis. On discutait toute la journée. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va manifester? Et les soirs, ils arrivent avec les chiens, avec beaucoup de les flics, les soldats. Une dame m'a amené à son appartement avec ma sœur. Au deuxième étage, parce qu'elle était une personne de droite, elle a dit « restez chez nous ». Et eux, ils sont allés à l'appartement de ma mère. Et on entendait les bruits, ma mère qui criait. Et après, ils sont venus à notre étage. Et à ce moment, ma sœur, elle m'a pris la main, elle m'a serré la main et tout de suite, elle a dormi. Par les pères. Quand ils sont partis, la femme qui nous amenait là-bas, elle était jalouse pour son mari. Elle a dit, maintenant, vous sortez de mon appartement. Et c'était une époque pour trouver un endroit pour rester très difficile. Parce que les gens, nos amis sont disparus. On ne savait pas où ils étaient. La jeunesse, la Brakis, toutes les amies, ils étaient cachés quelque part et on ne téléphonait pas. Et on a réussi à avoir un passeport. On a payé très cher, ma mère, ma sœur et moi, et mon neveu pour partir à Prague, à mon père. Ça, c'était 11 juin. Et nous avons vécu depuis 21 avril, d'une maison à l'autre. À la dernière semaine, j'ai vécu dans une maison psychiatrique. Parce que les psychiatres qui travaillaient là-bas, il était aussi psychiatre de l'armée. Il était très gentil, il m'a donné sa chambre. Et de cette maison-là psychiatrique, on est parti à Prague.
Intersoir diffusé également sur les chaînes de France Culture et France Musique.
Jacques Garat, Jacques Ball, Bernard Nicot et pour les sports Jean-Paul Bruchon font avec vous le point des informations de la journée.
Eh bien, il est 19h et il est toujours aussi difficile de se faire une idée exacte de ce qui se passe à Athènes. En effet, le pays est pratiquement en état de siège et isolé du reste du monde. Toutes les communications sont interrompues. La seule source d'information, c'est Radio Athènes. La première décision des militaires a été d'isoler complètement la capitale de la Grèce. L'aéroport a été fermé, les routes coupées, toutes les communications interrompues et Radio Athènes diffusait des marches militaires et les appels à la population.
Interdiction de circuler sur les routes, interdiction de sortir dans les rues après 18h. L'armée tirera à vue sur tous ceux qui n'obéiront pas à ses ordres.
Deuxième décision de l'armée, l'arrestation de tous les chefs de partis politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. En premier lieu, bien entendu, M. Papandréou, le vieux leader de l'Union du Sang.
Et même, selon des informations qui n'ont pas été contrôlées, le Premier ministre, M. Kanellopoulos, aurait été lui aussi arrêté, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Pourtant, M. Kanellopoulos, leader de la droite, avait contresigné le décret du roi Constantin.
Cette décision du roi Constantin intervient à un mois des élections générales. Il semblait acquis que ces élections auraient donné une majorité assez large à l'Union du Centre de M. Papandréou et aux formations de gauche.
Et c'est certainement pour prendre les devants que les chefs militaires se sont assurés le pouvoir. Reste à savoir maintenant quelles seront les réactions de la population. Pour l'instant, tout semble calme. Des coups de feu auraient toutefois été entendus ce matin dans les rues d'Athènes. Une nouvelle période de tension et d'incertitude s'ouvre en Grèce, mais cette fois, c'est peut-être le régime, le trône qui sont en jeu.
Fabien Perrier, vous êtes journaliste ici à Athènes. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire où on se trouve exactement ?
On est devant le Parlement, ce qu'on appelle la Voulie en Grèce en fait, qui est un bâtiment construit, comme on peut le voir, en style néoclassique. Est un bâtiment construit au 19e siècle, assez imposant, mastoc, par un architecte allemand. Quand la Grèce s'est libérée de ce qu'on appelle le joug ottoman. Quand en 1821, la Grèce a pris son indépendance. En fait, ce bâtiment a d'abord été construit pour le roi Otto de Bavière, qui est venu administrer le pays. La Grèce a été en fait, sous administration allemande. Et ce bâtiment est devenu, bien plus tard, une centaine d'années plus tard, le Parlement. Et ce qui me fascine toujours, c'est de voir qu'il y a ces volets devant, vert, bleu-vert, je ne sais pas quelle est la couleur exacte, ces volets bleu-vert donc qui ressortent sur ce mur un peu rose. Et très souvent, aujourd'hui encore, quand il y a des manifestations, les volets sont fermés. Et je trouve ça extraordinaire de me dire que la démocratie, dans le lieu, dans le berceau de la démocratie, ferme un peu les yeux sur ce qui se passe sur la place Syndagma. Parce que la place Syndagma, comme vous voyez, c'est une place assez grande, carrée. Syndagma, c'est la place de la Constitution, en fait. Les événements sur cette place jalonnent l'histoire de la Grèce. C'est aussi, pour revenir peut-être un peu sur le sujet, c'est aussi une place qui est chargée d'histoire, en fait, par rapport à la période de la dictature des colonels. En fait, qu'est-ce qui s'est passé sur cette place ? Bah, le 21 avril 1967, au petit matin, les Grecs se réveillent et il y a dans les rues, autour de cette place, des chars. Bref, les bruits de bottes résonnent dans Athènes. Et donc, quand ils se réveillent, il y a cette dictature qui a une ambition particulière, c'est de mettre à mal le régime parlementaire. D'ailleurs, je me rappelle d'un entretien, d'avoir lu un entretien dans un journal par Yorgos Papadopoulos, hein, l'un des leaders de la dictature des colonels, dans lequel il dit « L'objectif final de la révolution d'avril 1967 est de faire un bond en avant vers le progrès. Ce pas ne pourrait être accompli qu'en éliminant toute forme de parlementarisme. » Et là, il y a deux choses qui sont fascinantes. Quand on est sur cette place de nouveau, qui a été un lieu de la protestation, un lieu de la résistance, et qui le sera encore plus tard. Par exemple, au mouvement des indignés, en 2011, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période où il y a des indignés, c'est là que les Grecs ont tenu à s'installer et à implanter un exemple de démocratie directe. Bref, sur ce lieu-là, les colonels, en fait, essaient de tuer le parlementarisme, mais en même temps, ils parlent de révolution.
Moi, à cette époque-là, j'étais à l'armée, j'étais soldat.
Savas, en police.
Mon service militaire, dans un village aux frontières, là-bas, avec l'Albanie. Si tu étais dans un quartier comme moi, je suis d'ici Kessariani, qui était le quartier rouge, beaucoup de petits élèves, soit qu'ils étaient les pères, soit qu'ils étaient les frères, en prison. Exil, etc., etc. Donc, ils ont préparé, à partir de 1958, les mécanismes à l'intérieur de l'État et à l'intérieur de l'armée. Et dans un moment donné, 21 avril, le matin, Athènes et toutes les villes, les grandes, moyennes villes, etc., etc., il était plein de chars. Et il nous l'a réveillé à 3 heures le matin. Il était entré les chefs de casernes dans tous les bâtiments, il était tous les soldats au debout. Pourquoi? Les communistes, il est en dehors des casernes. Il voulait occuper la caserne. Donc avec les armes au debout. On était comme ça au debout. On était dans la caserne. Et il a commencé à dire le pays avec les politiciens qu'il était, etc., etc. Il ne peut pas continuer. Papandréou, dans la période électorale, il a donné une orientation vers l'Union soviétique et les autres. Après, peut-être qu'il fait un gouvernement de coalition avec la gauche unie, etc., etc. Donc, c'est nous qui vont garder l'avenir du pays. C'est ça. Et nous étions comme soldats, simples soldats. Moi, j'étais à l'époque 20 ans. Et après, ils ont créé des groupes avec 100 autres soldats qui vont avec les officiers occuper les bâtiments de télécommunications. Dans la radio, il fait une autre occupation, dans les mass médias, journaux provinciaux, communication et rien d'autre.
Christina Koulouri, vous êtes rectrice de l'université Panteion à Athènes. Est-ce qu'on peut revenir avec vous sur ce qui se passe ce 21 avril 1967?
Bon, c'était un coup d'État, un coup militaire, et prévu et attendu, pas seulement par les Grecs, mais aussi par la communauté internationale. En fait, à cause de la crise créée après la montée au pouvoir du parti du centre, Georges Papandréou, il y avait des réactions de la part du roi, mais aussi de la droite en général. Et il y avait aussi une doute qu'il y avait une menace communiste sur la Grèce. Aujourd'hui, ça nous semble un peu vraiment utopique ou même drôle, mais à l'époque, ils croyaient vraiment qu'il y avait une menace communiste sur la Grèce, à cause de la montée de la gauche et du parti du centre. Donc, on croyait que ça serait plutôt une dictature royale, Mais finalement, c'était un groupe d'officiers plutôt moyens et qui ont déclaré la dictature. Et c'était vraiment un choc pour les élites politiques de la Grèce, mais pour la droite. Mais finalement, il semble qu'ils avaient plus de succès qu'eux-mêmes croyaient. Et donc, le 21 avril, c'était une dictature militaire qui a commencé, qui a duré 7 ans.
Comment on l'appelle en grec, cette dictature, la junte des colonels, ça se traduit comment?
Des colonels ou du 21 avril. Ηχούντα των συνταγματαρχών, δικτατορία της 21ης Απριλίου.
Nous retrouvons l'actualité internationale avec la situation politique en Grèce. Là-bas, le nouveau régime militaire s'est solidement installé au pouvoir, s'organise et étend son emprise à tout le pays. C'est d'ailleurs ce que nous confirme d'Athènes notre envoyé spécial Jean-Pierre Elkabbach.
Le coup d'État continue à Athènes. L'état de siège ne sera pas levé avant plusieurs jours. La loi martiale reste en vigueur, donc le couvre-feu aussi. Les blindés entourent les bâtiments publics. Les sentinelles sont toujours postées, les balles engagées dans leurs armes. Sur les toits du Parlement, du Palais Royal et de certains ministères. De plus, les arrestations se poursuivent. Il n'y a eu qu'une seule liste noire, mais tous les noms qui y figuraient n'ont pas encore été arrêtés. Les policiers se présentent quand ils le veulent au domicile de leurs suspects. L'inviolabilité domiciliaire n'existe pas ici. J'ai fait, comme de nombreux confrères, une constatation. Tous nos contacts, c'est-à-dire tous nos informateurs, représentant la gauche ou un certain centre, ont disparu. Ils sont souvent transférés dans des îles qu'ils connaissent pour y avoir été déjà détenus.
Mavri Vavadjani, vous vous attendiez à ce coup d'État ?
C'était pas une grande surprise. On craignait depuis un certain temps déjà qu'il arrive quelque chose. Le jour même, mon ami de l'époque, mon futur mari, est venu me chercher comme tous les jours parce que nous allions ensemble à l'université. Il m'a dit que les chars étaient dans les rues et que nous étions dans une dictature. La première question qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce qu'il y aurait cours à l'université ? En fait, on ne comprenait absolument pas ce qui était en train de se passer.
Vous étiez à Athènes à ce moment-là ? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé exactement ?
Tout d'abord, c'était évident parce qu'il y avait des chars qui circulaient dans la ville.
Et
puis, on a tout de suite mis les nouvelles à la radio et à la télévision. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de postes de télévision. Et nous avons appris qu'il y avait un couvre-feu, une interdiction de circuler. Je me rappelle que ma sœur était enceinte. Elle a accouché le 30 avril et nous n'avons même pas pu aller la voir à la clinique.
Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?
Ce dont je me rappelle, c'est d'une peur terrible. Tout le monde avait peur. En fait, on n'arrivait pas à comprendre ce qui était en train de se passer et on n'arrivait pas à réagir. On était en état de choc. Dans ma famille, on était centristes. Donc mon père a voté et papa Andriou. Ma mère, elle, était plus de droite. Elle aimait beaucoup Karamanlis. Donc dans ma famille, personne n'était content du coup d'État. On ne s'est pas dit que ça allait arranger la situation de la Grèce. Pour nous, c'était vraiment une mauvaise nouvelle.
Il
Stravoula Christoulakis, qu'est-ce qui a changé quand vous êtes retournée à l'école après ce coup d'État?
Τίποτα.
Rien n'a changé.
Το μόνο ήταν ότι τα δύο χρόνια αυτά είχαμε έναν διευθυντή.
La seule chose,
το μόνο που έκανε,
c'est que nous avons eu un nouveau directeur
qui
nous apprenait des marches militaires.
Et απελευθερωθήκαμε και να μιλήσουμε.
Avec μετά, mes copains, nous avions 10-11 ans.
Μετά το 70,
nous n'avons jamais parlé entre nous de ce qui se passait.
Που έγιναν και τα γεγονότα.
Ce qui prédominait
Mais
à l'époque,
υπήρχε φόβο.
C'était la peur.
C'était il y a 100 ans, le 28 octobre 1922, la marche sur Rome, symbole de la prise de pouvoir de Mussolini. De Civitavecchia, de Mantoue ou de Tivoli, des milliers de chemises noires convergent vers la capitale italienne. À Venise, à Trieste ou à Padoue, les fascistes s'emparent des lieux de pouvoir, commissariats, préfectures ou gares. 300 000 jeunes hommes, armés, prêts à tout, déclarent Mussolini. En vérité, il n'aurait été que 26 000, munis de quelques fusils de chasse, désorganisés, fourbus, bien vite affamés, faute de ravitaillement, et mis en déroute dans les municipalités de Bologne ou de Vérone. Mais qu'importe, le symbole est là, qui sera ensuite magnifié par la propagande fasciste pour accroître le prestige de Mussolini jusqu'à sa chute en 1943. Une démonstration de force qui permettra au Duce de prendre le pouvoir en toute légalité, comme nous l'explique Marianne Matar Bonucci, spécialiste du fascisme.
Mussolini arrive au pouvoir donc à travers ce qu'on a appelé la marche sur Rome, qui n'est ni une révolution, ni une espèce de simulacre ou de carnaval, comme certains ont pu le dire, qui est une démonstration de force et de violence, qui a été soigneusement organisée, annoncée 4 jours avant le début des opérations lors du congrès du Parti fasciste à Naples. Et en fait, il s'agit d'environ 20 à 25 000 fascistes qui se rassemblent dans différents points d'Italie, principalement là où ils sont implantés, c'est-à-dire au centre et surtout au nord du pays, et qui convergent donc vers la ville de Rome en prenant d'assaut ici et là certaines municipalités, en détruisant le siège des opérations ouvrières, en faisant ce qu'ils ont fait en réalité depuis 2 ans. Mais il ne faut pas s'y tromper, la marche sur Rome, ce n'est pas que ça, c'est aussi un moment d'intense négociation, car pendant que surviennent ces événements, Mussolini est à Milan. Il utilise la force, la violence pour faire monter les enchères en quelque sorte, et il attend que le roi l'appelle pour former le gouvernement. Il a fait savoir qu'il n'acceptera que le poste de Premier ministre, de président du Conseil, et qu'il ne veut pas, en revanche, être simplement ministre dans le gouvernement. Et donc, si vous voulez, la marche sur Rome, c'est l'aboutissement de 2 à 3 ans de stratégie de la part de Mussolini, avec d'un côté l'usage systématique de la violence et de l'autre l'usage de la politique et d'une certaine façon du cadre légal, donc de la démocratie.
Nino da Roma, expliquez-nous ce que l'a été pour vous la marche sur Rome, puisqu'en fait vous y avez participé. Vous aviez quel âge à l'époque ?
J'avais 19 ans accomplis. J'ai participé à la marche sur Rome parce que ce n'était pas un mouvement ni de militaires, ni un mouvement de tyrannie, mais c'est un mouvement qui voulait redonner à l'Italie une position entre les grands États modernes d'Europe. On a parlé de 200 000, 300 000 hommes, mais c'était un rassemblement de 80 000 hommes jeunes, guidés par des combattants prodigieux qui avaient beaucoup de médailles militaires gagnées au front et des généraux très peu, mais très glorieux.
On n'est pas, si vous voulez, dans le cadre de l'Allemagne nazie avec un parti qui est structuré militairement, très violent, qui obéit aux ordres du Führer.
Didier Musitlac, historien.
Là, on est dans un système qui se met en place, qui va devenir, en revanche, après, beaucoup plus performant après la prise du pouvoir. Mais vous voyez, la phase initiale, c'est une phase, au fond, d'improvisation et de correction des appareils. Ça ne veut pas dire qu'attention, que le fascisme est un produit d'opérette, comme on l'a dit trop souvent. C'est totalement faux, hein. Puis il y a autre chose, c'est que ils étaient habitués à cogner sur les socialistes et les communistes. Pour eux, la marche Rome du 28 octobre, qui aurait consisté à taper sur les militaires, c'était pas possible. Ça voulait dire qu'ils allaient taper, frapper leurs frères d'armes. Donc ça changeait complètement leur mentalité. Tant qu'il s'agissait de détruire des socialistes, des municipalités socialistes, éventuellement de violer des femmes, etc. Scénario, hélas, encore classique, comme vous le savez aujourd'hui, dans les guerres, dans les affrontements. Tout ça, c'était concevable. Mais quand il s'agit d'affronter l'armée régulière, d'autant plus qu'ils savent très bien que l'armée régulière, elle est beaucoup plus forte qu'eux, eh bien, c'est, comme je vous l'ai dit, une révolution de la désillusion.
C'est une véritable invasion.
Hé, baronnie, c'est incroyable, ils sont au moins un millier de rouges sur la place.
Ils sont venus par camion entier. Mais où est-ce qu'ils les ont trouvés, ces camions?
J'ai jamais vu ça.
Hé, baronnie, tu as l'air de revenir d'un enterrement. Tu en fais une tête. T'as peur de t'être trompé? Il ne faut jamais avoir de regrets, ni peur, ni regret. Ne jamais avoir peur, si ce n'est de la peur elle-même.
Je fais quelques pinces, ça donne de l'aplomb, et c'est plus élégant.
Je ne veux pas être élégant, mais fort. Vous porterez la chemise noire. Vous aurez tous cet uniforme jusqu'à la mort. Hé, donne-moi le chat. Écoutez, le communisme est adroit. Il vous attrape au sentiment. Comme ce joli petit chaton. C'est pareil, il vous a au sentiment. Non ? Le communisme est une épidémie. Il risque, il peut détruire le monde. Suivez-moi.
Moi, ce que j'ai découvert, c'est que ils sont terriblement encadrés. Hein. Il ne s'agit pas qu'ils fassent n'importe quoi. Hein. Les fascistes sont canalisés. Devecchi, il y a une réunion qui se passe à 50 km de Rome, avec Balbo. Devecchi dit, s'il y en a un qui fait l'imbécile, on le fusille. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur que le roi, au dernier moment, s'il y a des désordres, dise, l'accord ne tient plus. Donc, ils sont, si vous voulez, dans un état extrêmement tendu au moment de l'arrivée du 30 octobre. J'ai recueilli un témoignage d'un squadriste fasciste qui a participé à la marche sur Rome, qui montre au fond que ceux qui participent à la marche le 28 octobre et surtout le 30 octobre, ils sont harassés, ils sont fourbus, ils sont piétinés dans la boue. Et il dit, au fond, on nous a trimballés du Corso à la place de Venise. Il dit, j'avais les pieds en bouillie. On nous a traités comme des chiens. Et il dit, si c'est ça la révolution, à quoi ça sert ?
1922, une grande date de l'histoire d'Italie. Dans un élan d'enthousiasme, les chemises noires de Mussolini, venues de tous les points d'Italie, marchent sur Rome. Mussolini, ayant à ses côtés Balbo et le général De Bono, pénètre à son tour dans la ville éternelle et prend le pouvoir sur les décombres du régime précédent, miné par les grèves et les troubles sociaux. <t'en> 1942, les milices fascistes sont réunies sur la Via del Mare, reliant le Capitole au port d'Ostie. Le Duce décore des volontaires des bataillons Mussolini revenant du front.
Est-ce que cette manifestation de force, elle a créé de l'effroi chez les habitants à Rome ?
Vous savez, en fait, c'était une période un peu triste pour l'Italie, parce qu'il y avait sans arrêt des manifestations, qu'elles soient de gauche, que ce soit... Vous savez, il y a des quartiers qui étaient tenus par les socialistes et les communistes. Vous savez, un peu comme à Berlin, vous aviez des quartiers qui étaient tenus soit par les nazis, soit par les communistes. Et c'est un peu la même chose à Rome. Donc... Il y a, si vous voulez, une forme de lassitude qui s'est installée, parce qu'il y avait une sorte de climat de pré-guerre civile, et on se disait, au fond, Mussolini, combien de temps il va durer? Vous savez, quand il arrive le 29 octobre en wagonnerie, c'est quand même pas mal pour un chef révolutionnaire, il arrive en wagonnerie, et il va voir le roi le lendemain, il est investi, pour lui, il est en frac. Il est en frac. Il a même pas la chemise noire. Vous avez vu dans les films comment il apparaît. C'est tout à fait intéressant, ça, de le voir. Hein. Donc, c'est une sorte de mise en scène d'une chorégraphie pour montrer qu'il s'agit effectivement d'un mouvement du peuple, pouvoir fasciste, mais ça va pas plus loin.
Dans le même temps, à Lisbonne, une foule se pressait sous le balcon de la résidence présidentielle pour acclamer le Premier ministre Salazar à l'occasion du 25e anniversaire de sa prise de pouvoir. 450 officiers de la Légion portugaise défilaient ensuite à la tête des diverses associations venues clamer leur fidélité au plus populaire des dictateurs.
Pas de marche sur Lisbonne pour Salazar, pas de coup d'État non plus. Quand il arrive au pouvoir en juillet 1932, le Portugal est déjà aux mains des militaires depuis 1926. Son fait d'armes à lui, l'intellectuel, le professeur, loin de l'image guerrière de Mussolini ou de Franco, sera de parvenir à capter le pouvoir des militaires et de prendre le contrôle total de l'État portugais. Il restera président du Conseil à vie jusqu'à sa mort en 1970. Mais pour le moment, revenons sur son arrivée au pouvoir avec Yves Léonard, historien et auteur d'une histoire de la nation portugaise.
Salazar devient président du Conseil début du mois de juillet 1932. Président du Conseil, ça veut dire le chef du gouvernement. Il faut savoir que c'est un homme qui a été ministre des Finances depuis 4 ans. Et c'est à partir de ce poste de ministre des Finances qu'il a pu tisser un petit peu ses réseaux et consolider son assise. Et être président du Conseil, c'est pour lui une forme d'aboutissement et aussi un début vers autre chose. Un aboutissement parce qu'il a tout fait pour arriver à ce poste. C'est un poste qui est assez stratégique. Et qui lui permet surtout, qui est son objectif, un de ses objectifs principaux, de faire une nouvelle constitution qui va lui permettre en fait de consolider son emprise sur le pouvoir. Et puis être président du Conseil, c'est aussi une manière de se poser très clairement vis-à-vis des militaires qui jusque-là ont détenu le pouvoir. Et les militaires vont nommer pour la première fois depuis des années un civil pour diriger les affaires de l'État. Et donc Salazar, c'est un petit peu, voilà, c'est la synthèse de tout ça. C'est une volonté très personnelle, sur un parcours très personnel, avec un certain nombre d'idées, mais aussi une ambition très forte d'arriver là où il se trouve à l'été 1932, mais de manière, à sa manière à lui. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'a pas de passé militaire, qui n'a pas de force politique majeure pour le soutenir, et qui est quelqu'un à la fois de connu par les élites, mais qui n'est pas encore quelqu'un de très connu dans l'opinion. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir pour lui montrer ce dont il est capable, si l'on peut dire, et consolider son emprise. Et ça va se faire de manière graduel. Et c'est véritablement à partir de 1934 que là, on voit très clairement que c'est lui qui qui a pris la main sur les leviers du pouvoir. C'est lui qui est en train de s'affirmer très clairement comme le dictateur. Et pour reprendre une formule que ses admirateurs utilisent, on scande autour de lui « Tout pour Salazar, rien contre Salazar ». Déjà pour partie dans un régime qu'on peut qualifier d'autoritaire, puisqu'il y a une dictature militaire qui a été mise en place en 1926 et Salazar en est quelque part l'héritier. Il est arrivé aux finances en 1928 et il a toujours repris les idées forces de ce coup d'état militaire et de cette dictature militaire. Mais il n'y a pas de marche sur Rome. Il n'y a pas d'élément singulier, particulier, qu'on peut isoler très clairement. C'est plutôt une succession de crises ministérielles, politiques, on pourrait dire, qui va lui permettre de s'affirmer au pouvoir. Et là, il va révéler une grande habileté tactique, parce que c'est un homme qui n'a pas à sa disposition un parti de masse, qui n'a pas un mouvement, qui le soutient avec des chemises d'une certaine couleur. C'est un homme non pas seul, mais assez atypique. C'est un universitaire, c'est un professeur d'université qui a fait de la politique, mais qui en a fait de manière à sa manière, c'est-à-dire en montrant que la politique politicienne, c'est pas ce qu'il faut pour le pays. Lui, ce qu'il veut, c'est autre chose. Et il veut incarner la nation. Et la nation qui serait au-dessus des partis. Et pour être au-dessus des partis, ben rien de plus simple que de supprimer les partis. Ou du moins d'avoir un parti unique, mais un parti unique qui serait pas quelque chose de très mobilisateur, qui serait simplement une force d'appui qui lui permettrait localement de relayer son discours. Donc c'est cet homme-là qui va successivement, de 1928 à 1932, par étapes successives, grignoter, marquer son emprise à partir du ministère des Finances, où il contrôle tout. C'est lui qui contrôle toutes les dépenses publiques. Et contrôlant toutes les dépenses publiques, eh bien, il convoque les autres ministres en leur disant bah, « Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas dépenser. » Et ça lui donne un pouvoir considérable. Et comme il rétablit l'équilibre des comptes publics, il rétablit la confiance dans la monnaie, il devient indispensable. Le chef de l'État, qui est un général, lui dit « Surtout, surtout, ne partez pas. » À chaque fois qu'il y a une crise, il dit bah, « Écoutez, moi, le pouvoir, finalement, je l'ai accepté comme un fardeau, comme un sacrifice. Je retourne à l'université de Coimbra, je repars chez moi. » Et on vient lui dire « Mais surtout pas. » Et à chaque fois, il grignote un peu plus de pouvoir. Et à partir de 1932, quand il est président du Conseil, à l'été 1932, il est véritablement, c'est la tour de contrôle. Ce qu'il était pour partie en tant que ministre des Finances, mais là, il a autour de lui un appareil d'État, et très vite, comme c'est un homme habile, c'est un homme pugnace, un homme sournois, un homme retors, il va très vite poser son emprise et mener à bien les idées qui sont les siennes. Mais il n'y a pas, formellement, il est nommé président du Conseil le 5 juillet 1932, il n'y a pas un 4 juillet et un 6 juillet, si vous voulez. C'est quelque chose, il va avoir du mal à former son gouvernement, ça va être un peu compliqué parce qu'il doit tenir compte encore des forces un peu composites de la dictature militaire. Et donc c'est progressivement que tout ça se met en place. Mais toujours chez Salazar, avec une volonté farouche de ne jamais perdre de vue son objectif. Et son objectif, c'est d'une part la dictature, elle existe déjà, mais une dictature qui s'incarne à travers lui et qui diffuse une certaine idée du Portugal, une certaine idée de la nation. Et la nation, tout doit lui être consacré. Il y a ce slogan « Rien contre la nation, tout pour la nation ». Mais c'est ça qu'il veut mettre en place avec un corpus d'idées, avec des méthodes, un appareil d'État qui va lui être dédié, très vite, en 1933, on voit apparaître un secrétariat à la propagande nationale, on voit apparaître un système de censure très coercitif, on voit se formaliser une police politique qui est véritablement créée à ce moment-là, même si elle préexistait un peu depuis la dictature militaire. C'est à ce moment-là qu'il met les principaux outils qui vont lui servir pour consolider son pouvoir. Parce que jusque-là, c'est beaucoup d'habileté politique, un soutien inconditionnel de la hiérarchie catholique et de quelques officiers supérieurs, dont le chef de l'État, avec lequel il a partie liée. Mais à partir de 1932-1933, eh bien, il va tisser sa toile, consolider son assise à travers ces leviers que je viens de citer.
Il est plus difficile de dater exactement l'accession au pouvoir de Franco en Espagne. Il participe avec d'autres généraux au coup d'état militaire du 18 juillet 1936, destiné à mettre fin à la République. Mais c'est en partie un échec, et le pays bascule dans la guerre civile. Il faudra attendre la fin du conflit et la mort providentielle des autres généraux pour que Franco puisse enfin, en 1939, arriver au pouvoir, qu'il conservera jusqu'à sa mort en 1975. Amélie Nuc, vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Grenoble-Alpes. À quel moment vous dateriez l'arrivée au pouvoir de Franco ?
Franco et un certain nombre de militaires qui sont réunis autour de lui réalisent une tentative de coup d'État les 17 et 18 juillet 1936. Mais ce coup d'État n'est pas un succès dans toutes les régions d'Espagne. Et c'est cette résistance qui finalement entraîne le déclenchement de la guerre civile espagnole, qui va durer 3 ans et qui va se terminer au mois d'avril 1939. Donc Franco, dans son propre camp, celui des militaires rebelles, construit peu à peu son pouvoir personnel à partir de l'automne 1936. Mais ce pouvoir-là, il ne l'exerce sur la totalité du pays qu'une fois la victoire sur l'armée républicaine déclarée, c'est-à-dire le 1er avril 1939. Il construit sa dictature personnelle. Finalement, il finit par par cumuler un certain nombre de pouvoirs, ce qui est inédit dans l'histoire contemporaine de l'Espagne. C'est à la fois un chef militaire, c'est à la fois le chef du gouvernement, c'est lui aussi qui dirige le parti unique, la Falange, et c'est la somme de ces différents pouvoirs donc qui lui permet de construire cette dictature personnelle avec le soutien crucial de l'Église catholique. Puisque l'Église catholique déclare que cette guerre civile espagnole est une croisade pour Dieu et pour la patrie. Donc, en éliminant un certain nombre d'oppositions, il construit ce pouvoir-là qui va devenir donc une dictature personnelle qui va perdurer une fois la guerre civile terminée.
Ludovic Oscar Frossard, 8 mars 1939.
Il n'est plus permis maintenant d'avoir la moindre illusion sur le sort de la République espagnole. Dans quelques jours ou dans quelques heures, Madrid et Valence tomberont au pouvoir de Franco. La junte militaire, formée par le colonel Casado et M. Besteiro, l'ancien président socialiste des Cortés, sous la présidence du général Miaja, négocie avec Burgos. Elle compte que l'élimination des communistes lui vaudra de Franco un traitement favorable. Elle voudrait un armistice. Mais Franco, sûr désormais de l'emporter au moindre frais, semble exiger la reddition pure et simple. De toute façon, la partie pour les républicains est perdue.
Est-ce qu'il va y avoir, au moment donc de la victoire de Franco, de son arrivée au pouvoir, une scénographie comme il y a pu en avoir en Italie avec la marche sur Rome ? Est-ce qu'il a éprouvé le besoin de signifier cette victoire ?
Au au moment où la victoire sur l'armée rouge, c'est comme ça qu'on l'appelle, est déclarée, le 1er avril 1939, il y a en effet un certain nombre de grandes manifestations, de défilés militaires qui sont organisés surtout à Madrid pour montrer, hein, pour afficher cette victoire contre les républicains, qui est aussi une victoire contre tout ce qui précède en fait, contre la Seconde République qui avait été proclamée en 1931, contre le Front Populaire qui était arrivé au pouvoir en Espagne comme en France au printemps 1936. Donc c'est une victoire militaire, mais c'est aussi l'affirmation d'un modèle politique, d'un modèle de société, donc qui s'affirme, hein, avec tout un décorum, qui est en partie celui de la Falange, du Parti Unique. Donc on adopte l'hymne de la Falange, Cara al Sol, l'uniforme de la Falange aussi, qui est en grande partie inspiré du fascisme italien. À l'été 36, on avait choisi aussi un drapeau, hein, le drapeau rouge et or de la monarchie. Et donc tous ces symboles, tous ces éléments de ritualisation permettent de rendre manifeste, hein, lors de grandes cérémonies, l'unité du corps national qui doit maintenant être l'unité de l'Espagne tout entière.
Espagne,
uno.
Espagne,
grande.
Espagne,
vive.
Arriva Espagne.
Arriva.
C'était Quand vient le fascisme en Europe, le coup d'État. Avec Joël Dallègre, Christina Coulouri, Yves Léonard, Amélie Nuc, Marianne Matar-Bonucci, Didier Musidlac, Fabien Perrier, Laucrasia Laca, Savas Robolis, Dimitris Estravoula Christoulakis et Mavri Vavadjani. Traduction Hector Kourounis. Lecture Clémence Bûcher, Christina Crévienne et Thierry Beauchamp. Extrait des films 1900 de Bernardo Bertolucci et La marche sur Rome de Dino Risi. Coordination Marivonne Abolivier et Perrine Kervran. Merci à Véronique Jolivet de Lina et à Angélique Kournis. Prise de son Yves Lehors, Jérémy Tuile, Benjamin Perru, Marc Garvanès, Marie Le Peintre et Stéphane Touvenin. Un documentaire de Christelle Le Polothèque et François Teste.